pas promis. Je sais, j'insiste pas trop parce que sinon on prend des risques, ça devrait ne pas durer très longtemps. En tout cas, petit rendez-vous, petit crime entre amis, donc petite matinée intime pour essayer de rencontrer les criminels et ceux qui les traquent avec quatre invités aujourd'hui. Je commence tout simplement dans l'ordre. D'abord Charlotte Bousquet, que beaucoup connaissent déjà ici, prix imaginal des collégiens, prix imaginal tout court. Donc déjà, c'est pas mal comme palmarès au festival. Charlotte Bousquet, donc spécialiste de la fantasy, de la dystopie, mais aussi, et c'est sur ça qu'on l'interrogera, Venenum, un roman qui nous annonce, il y a des éléments historiques, elle nous en parlera, qu'on aurait peut-être assassiné Descartes, et évidemment, on enquête et on verra qui est ce « on ». Alain Boer, qu'on connaît évidemment pour ses engagements et ses points de vue, qui provoquent toujours débat sur les questions de sécurité, et donc un homme qui s'intéresse à la sécurité est évidemment un homme qui s'intéresse au crime. Et Alain Boer s'est lancé en collaboration avec un autre auteur dans le roman policier historique, et en particulier le roman policier franc-maçon. Il nous en dira plus, puisque vous le savez, il a été grand maître du Grand Orient de France. Nous avons Tan Van Tranot, qui n'est pas invité pour la première fois ici, il y a 2 ans. On a eu le plaisir de la rencontrer quand on a ouvert le festival au roman historique. Roman historique, un ancêtre puisque elle est d'origine vietnamienne, notre compatriote, et donc elle s'est intéressée à ses origines, à celles d'un mandarin familial, et elle l'a imaginé enquêteur dans le Vietnam du XVIIe siècle. Si mes souvenirs sont bons, au moment où évidemment il y a à la fois les menaces occidentales françaises et puis aussi les menaces chinoises. C'est pas facile à l'époque d'être vietnamien. Et puis Pierre Pevel, qui est un des ténors, ne ferait pas rougir en disant la vérité, de la fantasy française, aujourd'hui publié dans de nombreux pays européens, et y compris en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ce qui pour les auteurs français en général et d'imaginaire en particulier n'est pas fréquent. Voilà, et c'est aussi une des meilleures ventes et une des meilleures signatures du roman de fantasy. Alors pourquoi là? Parce que quand même on tue pas mal dans ces romans de fantasy. C'est moins les enquêteurs que des hommes d'action et parfois des hommes de basse œuvre. On en dira un mot. On parlera rapidement de son nouveau roman, mais on dira un peu plus des Lames, puisque c'est aussi celui qui l'a fait connaître et qui a obtenu aussi un prix aux Imaginales. Si ma mémoire est bonne, c'est peut-être le prix Imaginal des lycéens, je me rappelle bien.
Les Lames, oui.
Ah, c'est bien ça, hein, quand même. Ça va. Alors, on va donc commencer, peut-être tout simplement par Pierre Pevel. On va commencer par la fantaisie, qui est quand même le cœur du festival. Alors, Pierre, lorsque vous avez imaginé Les Lames du Cardinal, on va dire en gros, c'est roman historique plus fantaisie, mais on dégaine, on complote, on assassine.
Oui, oui, Les Lames du Cardinal se situe dans la France de Louis XIII et du cardinal de Richelieu. Bon, donc c'est le contexte historique des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Le cadre historique est rigoureux, je suis assez bien documenté, puisque à cause grâce aux Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas en particulier et du roman de KPDP en général, je me suis vraiment intéressé pour cette période historique, le début du XVIIe siècle, qui me fascine à plein de points de vue pour d'excellentes raisons intellectuelles et tout simplement parce que les mousquetaires, c'est trop chouette. Et c'est une période que je connais bien, que je voulais reconstituer de manière la plus rigoureuse possible, à ceci près que j'y ai ajouté des dragons. Mais à part ça, tout est vrai. Et mes personnages, les Lames du Cardinal, qui donnent le titre au roman et à la trilogie, au premier roman et à la trilogie, sont aujourd'hui on dirait des barbouzes. Ils travaillent sous les ordres directs du cardinal de Richelieu et ils accomplissent pour lui les missions dont en général les États ne se vantent pas trop. Donc un des thèmes du livre, hormis le fait que c'est essentiellement un roman de KPDP avec les éléments classiques du genre, plus des dragons. Mais une des thématiques qui m'intéresse, c'est la raison d'État. C'était de voir ce que des hommes peuvent faire au nom de la raison d'État, ce que d'autres hommes de pouvoir peuvent demander au nom de la raison d'État, qu'est-ce qu'elle justifie à différents points de vue, politique, moral, c'est pas toujours le même, et quel effet ça peut avoir sur les hommes qui accomplissent certaines actions au nom de cette raison d'État, peuvent éventuellement le regretter ou être lâchés, mais en même temps sans placer automatiquement ces hommes-là comme des sortes de victimes de leur devoir, parce que ce qu'ils font, ils le font également en exerçant une part de leur propre liberté. Donc c'est toutes ces thématiques-là que je trouvais intéressantes à traiter et quand on dit raison d'État, on n'est jamais loin de parler assez rapidement de crime d'État, je pense, à un moment ou à un autre. En tout cas, c'est le danger.
Un petit extrait pour entrer dans l'œuvre. Donc les Lames du Cardinal de Pierre Pevel. Ayant sellé son cheval, Lafargue achevait de sangler les fontes de ses pistolets lorsque Delormel le rejoignit dans l'écurie, parmi les odeurs chaudes de bêtes, de foin et de crottin. « Te reverrons-nous bientôt ?» demanda le maître d'armes, « ou du moins avant 5 années ?»« Je l'ignore. »« Tu sais que tu seras toujours le bienvenu chez moi. » Lafargue flatta l'encolure de sa monture et se retourna. « Merci, » dit-il. « Tiens, tu as oublié cela dans la chambre. » Delormel tendait un petit pendentif dont la chaîne nette était brisée. Le vieux gentilhomme le prit. Usé, marqué, griffé, terni, le bijou semblait dérisoire dans sa grande main gantée. « J'ignorais que tu le possédais encore, » ajouta le maître d'armes. Lafargue haussa les épaules, on n'abandonne pas son passé. « Le tien te hante ?» Plutôt que de répondre, le capitaine fit mine d'assurer sa selle. « Elle ne méritait, elle te méritait peut-être pas, » lança Delormel. Dos tourné, Lafargue se figea. « Ne la juge pas, Jean. Tu ne connais pas toute l'histoire. » Il ne leur était pas nécessaire d'en dire plus. L'un comme l'autre savait qu'il parlait de celle dont le pendentif abritait le portrait écaillé. « C'est vrai, mais je te connais assez pour savoir que quelque chose te ronge. » La perspective de réunir les lames pour de nouveau servir la couronne devrait te réjouir. Or, je devine que tu n'as accepté la proposition du cardinal qu'à contre-cœur. Tu lui as cédé, Étienne. Cela ne te ressemble pas. Si tu étais de ceux qui cèdent, tu aurais déjà ton bâton de maréchal. Ma fille est peut-être en danger, lâcha Lafargue d'un bloc. Puis lentement, il fit face à un Delormel interdit. Tu voulais savoir, n'est-ce pas ? Voilà, tu sais. Ta fille, tu veux dire ? Le maître d'armes eut un geste hésitant. Pour désigner le pendentif que le capitaine tenait encore dans son poing. Lafargue acquiesça, oui. Quel âge peut-elle avoir ? 20 ans ou presque. Mais que sais-tu du danger qui la guette ? Rien. Le cardinal m'a simplement laissé entendre qu'une menace pesait sur elle. Voilà, on est complètement dans le mystère et on se demande qui sont ces tueurs, qui est cette fille, et puis on va le découvrir. Je précise que c'est le premier roman, Les Lames du Cardinal, de cette trilogie, qui vient d'être édité chez Folio et qui a été en première édition et qui est toujours chez Bragelonne. On va maintenant partir en Angleterre, en tout cas au Royaume-Uni, si ma mémoire est bonne. Et on va, avec Alain Bauer, rencontrer une loge. Parce que ce roman, Les Mystères de Chanel Roe, c'est un roman policier, c'est un roman historique, c'est pour ça que fait partie de cette tribune, et aussi un roman qui nous en fait découvrir plus sur un monde qui apparaît au profane un peu mystérieux, qui est le monde de la maçonnerie, monde propice à bien des fantasmes, et parfois encore aujourd'hui, et c'est pas nouveau, c'est depuis la création de ces organisations. Et je pense que, me dira si je ne me trompe pas, qu'Alain Bauer a profité de ces romans pour évidemment en dire un peu plus et en fait nous montrer que ce qu'on croit être parfois un peu secret est simplement discret. Il me dira si la brève analyse que je viens de faire, il la partage. Un petit extrait d'abord. De sa main libre, il venait de tirer de sa seconde poche un magnifique morceau de charbon de bois. Plusieurs frères éclatèrent de rire. Anthony Sayre, qui avait suivi la scène avec amusement depuis le début, intervint alors. « C'est vrai, Jacob, certains tuileurs préfèrent tracer la loge au charbon plutôt qu'à la craie. Puisque tu es le plus ancien maître de loge ici présent, c'est toi qui présideras notre tenue. C'est donc à toi de décider quelle sera la couleur du tracé. Eh bien, dit Lamballe avec bonne humeur, si j'en juge par l'état de ce parquet, crasseux à souhait, je pense que seule la craie peut y dessiner quelque chose de visible. Mon frère tuileur, garde ton charbon de bois pour allumer ton feu. » « Puisque nous parlons de feu, dit une voix qui provenait de l'escalier, voici 3 belles chandelles neuves que je viens d'allumer. » Aidé par 2 autres frères qui vinrent l'assister en haut des marches, le frère aux chandelles les fit disposer au centre de la pièce. 2 d'entre elles à quelques pas devant le fauteuil placé près de la cheminée et 1/3 devant les 2 sièges situés à l'extrémité du côté de la rue. Jacob Lamballe, ayant observé que de nouveaux frères étaient arrivés, estima alors que tous ceux que l'on attendait devaient être là. La plupart d'entre eux avaient du reste déjà revêtu leur long tablier de peau blanche. À présent, tout est en ordre. Nous pouvons commencer. Mes frères, prenez séance. Lamballe prit place sur le siège principal et 2 autres frères qu'il désigna allèrent occuper les chaises placées en face de lui. Tous les participants s'étaient assis à leur convenance tout autour de la loge. Après un moment de réflexion, le tuileur qui était resté debout vint se placer dans l'espace délimité par les 3 chandeliers et entreprit d'y effectuer le tracé de la loge. À genoux sur le parquet, il délimita tout d'abord un cadre rectangulaire qui l'ornementa ensuite d'une bordure de petits triangles dont les pointes étaient dirigées vers l'extérieur. Ce dernier raffinement, qui lui prit un certain temps, n'était pas obligatoire, mais en ce jour exceptionnel, le tuileur entendait visiblement donner le meilleur de son talent. Alors le rite, c'est important dans une loge maçonnique, Alain Bauer ?
C'est essentiel, mais paradoxalement, c'est arrivé tard. Car la loge maçonnique, elle est née d'un déjeuner amical où une personne était invitée par une autre, et s'il avait fait preuve de son talent, de son humour, de son intérêt, de sa compétence, un coup d'œil des membres du banquet initial, ceux qui l'invitaient, permettait au président de séance, au maître du banquet, de l'inviter une nouvelle fois, et on devenait maçon à vue, car l'initiation se faisait simplement par l'invitation à l'épisode suivant. Donc le rituel s'est construit peu à peu parce que la maçonnerie est née dans un univers déjà extrêmement encombré d'un point de vue ésotérique et symbolique. Nous étions dans une Angleterre marquée par l'anglicanisme, avec des dissenteurs protestants, des catholiques pour choisir, évidemment des minorités juives et musulmanes qui étaient admises en loge, alors même qu'elles n'étaient pas reconnues comme des citoyens ordinaires dans le reste de l'Empire, en tout cas de la monarchie britannique. Et assez rapidement, l'idée que ça se construise uniquement sur des questions scientifiques, ce qui est l'origine réelle de la maçonnerie autour de Isaac Newton et de la Royal Society, c'est-à-dire un espace où la question de la croyance en Dieu et de savoir dans quel clan on se situait dans la monarchie n'était pas indispensable pourvu qu'on ne loupe pas les lumières et le progrès, ce qui était le grand drame de Newton. Newton considérait que l'Angleterre avait été à l'écart des lumières et il souhaitait les raccrocher. Du coup, on a inventé un rituel, puis peu à peu, les tenues ne se sont pas passées dans le bistrot du coin. Les trois premières loges ont des noms extrêmement ésotériques, hein, l'oie et le grill, le grappe et le raisin, la timbale. Bon. Et donc, on est monté à l'étage, ils ont isolé le premier étage, puis peu à peu, ils ont construit un tableau de loge, puis une ornementation de la loge, puis les loges sont devenues des immeubles, des locaux spécifiques et adaptés à cela, et c'est comme ça que ça s'est peu à peu développé, sans dragon.
La précision était importante. Eh bien, on est donc parti dans un univers un peu parallèle, un cardinal avec dragon. Ensuite, on a fait un petit tour, on y reviendra en Angleterre au XVIIIe siècle. Et puis, là, on va partir donc au XVIIe, au Vietnam. Le lettré se frotta le nez convaincu. Il entendit la chair crépiter tandis que les graisses commençaient à s'enflammer. Mais alors, reprit-il, qui avons-nous comme suspect ? Ça, c'est la question suivante, en effet, concéda le mandarin, avec une moue préoccupée. La pauvre dame feu que les notables ont accusée vient d'être mise hors de cause. Pourquoi le contremettre, se sentant un peu trop au chaud, ne s'est-il pas réveillé ? Il y a des chances pour qu'il ait été drogué auparavant. On a pu lui administrer un somnifère afin qu'il soit juste inconscient dans le cas où quelqu'un le toucherait avant de partir à la fête. Le mandarin mit ses mains derrière sa tête pensif. Cela nous donne quelques coupables potentiels, dit-il, les yeux graves. Je suggère Madame Perle, proposa tout de go le lettré Dean. Elle ne m'a pas l'air franche, avec sa bouche pincée, ses petits yeux inquisiteurs. De plus, elle peut aller et venir dans la cahute sans qu'on lui demande des comptes, et c'est elle qui le soigne. Et le motif, questionna le mandarin. Peut-être qu'elle ne veut plus s'occuper de cet homme qui devient fou, qui consomme tous ses médicaments. J'imagine sans peine qu'elle est grippe-sous, comme tous les commerçants qui se respectent. N'oublie pas l'histoire de la cantine, coupa le mandarin. Dans ses divagations, le contremaître parlait d'une vengeance. Si c'était lui qui avait allumé le feu d'antan, il aurait pu le faire sur l'ordre de sa maîtresse. Mais quel intérêt aurait-elle pu avoir dans l'incendie de la cabane des Chams ? Une cloque de graisse qui explosait leur rappela que le porc cuisait toujours. Une odeur de brûlé se répandit dans la remise. « Je ne pourrais plus consommer de viande grillée sans songer à ce malheureux, » fit remarquer le lettré. « Quelle horrible façon de finir ! Songe alors à toute la famille Cham. Eux ne devaient pas avoir été drogués, ils ont dû brûler vif, » répliqua le mandarin Tan. Il lui fit part de la scène fantasmagorique que sa mère lui avait narrée la veille. « Le village entier me paraît coupable dans ce terrible incendie, » décréta le lettré horrifié. « S'ils ont agi, ce sont des meurtriers. S'ils ont laissé faire, ce sont des complices. » Mais les faits se sont déroulés il y a plus de 20 ans. Beaucoup doivent être morts à présent. Alors, toujours une enquête policière, des crimes, et ce mandarin est obligé de naviguer, évidemment, à la fois avec des milieux qu'il ne connaît pas nécessairement, mais il est plutôt d'origine populaire. C'est une sorte d'ascension sociale auquel on assiste. Et puis aussi, il est obligé de naviguer entre des influences politiques différentes, puisque, si je me souviens bien, puisque j'ai quand même lu plusieurs de vos romans, le Vietnam à l'époque est partagé entre le Nord et le Sud, de deux clans qui s'affrontent. Peut-être en deux mots, situer un petit peu la situation, le rôle du mandarin, et puis le choix de l'enquête policière, Tan Van Tran Nhat.
En fait, le XVIIe siècle est très important parce que pour le pays, c'est un temps de crise. D'abord, la crise politique que vous évoquiez, parce que le monarque n'est plus un monarque absolu, alors que c'est l'empereur qui doit être le fils du ciel, donc respecté de tous. Et en réalité, en effet, le pouvoir est disputé entre deux familles, les seigneurs du Nord et les seigneurs du Sud. Et cette rivalité politique bat en brèche directement le confucianisme, qui est doctrine d'État et qui vise à établir la stabilité de la société à travers le respect absolu du Fils du Ciel. Donc c'est très important de placer les histoires dans ce contexte, parce qu'il y a, cette dissension qui déchire le pays. Donc déjà, cette crise politique, sur laquelle vient se greffer une crise économique à la fois, parce que le XVIIe siècle voit la naissance de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, qui va lâcher sur les mers d'Asie des flottes puissamment armées pour le commerce avec l'Indonésie, la Chine, le Japon et le Vietnam. Et ces commerçants vont être très, très intéressés par les ressources naturelles du pays, la soie, le bois précieux, l'encens. Et puis, troisième point important, c'est l'introduction d'une nouvelle religion, parce que les commerçants ne sont pas les seuls à débarquer sur le territoire Viet. Ils sont précédés par les missionnaires portugais et français, qui vont donc perturber l'équilibre existant avec une religion monothéiste, alors que jusqu'à présent, il y avait trois courants qui coexistaient paisiblement. Le confucianisme, dont on a parlé, qui met l'homme après la société. Le taoïsme, qui fait l'inverse, c'est-à-dire qui place l'homme avant la société. Et puis le bouddhisme. Et là, on a une religion monothéiste qui demande l'exclusivité. Et ça va enflammer en fait tout le paysage religieux. Voilà.
Charlotte, vous aussi vous vous intéressez au crime, mais vous nous révélez qu'on aurait assassiné Descartes.
Ouais.
Ben, c'est complètement inventé, bien sûr.
Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en il y a quelques années, il y a eu des articles qui ont circulé sur Internet, expliquant qu'un certain Theodor Ebert, un historien de la philosophie allemand, avait écrit quelque chose sur l'énigme de la mort de Descartes, expliquant que Descartes aurait été effectivement assassiné. Et c'est quelqu'un donc, qui a fait une enquête extrêmement minutieuse, extrêmement documentée, se procurant des documents d'époque, les lettres notamment du valet de Schlüter, qui était le valet de Descartes, des lettres du médecin de la reine Christine. Et en fait, ce livre n'était pas traduit. Pourquoi il n'a pas été traduit ? Parce que malheureusement, en France, l'université a tendance à se considérer comme étant la seule détentrice du savoir envers Descartes. Et donc, la personne qui était en charge des études cartésiennes à l'époque a dit, de toute façon, c'est sans importance. Donc, comme c'était quelqu'un que je connaissais un petit peu, je me suis évidemment précipitée sur le livre en allemand. J'ai lu le livre en allemand et effectivement, donc Descartes n'est pas mort d'une grippe ou d'une pleurésie comme ça a été dit pendant des années, mais a priori aurait été effectivement empoisonné à l'arsenic. Donc tous les symptômes qui sont les maux de ventre, les vomissements, les pertes de conscience et ce genre de choses ont été transformés en grippe. Alors, il me semble que quand on a la grippe ou une pleurésie, on commence par tousser. Et Descartes aurait essayé plusieurs fois de se faire vomir avec du jus de tabac et ce genre de choses. Donc j'ai imaginé après une histoire à partir de là. Donc après, on part plus du tout dans l'historique, on part vraiment dans la fiction. Et j'ai fait de Descartes un agent de Mazarin. De Mazarin.
Ah, voilà.
C'est assez rigolo parce qu'il y a des filiations. Et grâce à Pierre, j'ai pu inventer des codes secrets. Donc il faut lire Wittstadt, c'était de la pub pour les copains. Voilà, donc je dois lire un extrait là, c'est ça. C'est le moment où je suis censée lire un extrait.
Voilà, là je laisse l'auteur travailler, qui aime bien de temps en temps lire lui-même, ou elle-même en l'occurrence.
Non, en fait, vous me l'avez demandé, Stéphanie.
Faut pas le dire en
j'ai
public.
J'ai pas le choix. Alors, bon alors écoutez, je vais faire quelque chose donc, qui est tout le début. Voilà. Je lui narrai la manière dont je faussais compagnie à Madame Dutronchet, un billet devenu de Hollande, mandant de toute urgence ma présence auprès de lui. Je m'étais longuement entraînée à imiter l'écriture et la signature du philosophe. Mes hôtes, trop honnêtes pour imaginer cette duperie, ne conçurent aucun soupçon. Ainsi, je voyageais en compagnie d'un chaperon austère jusqu'à Leyde, où demeurait Franz von Schouten, un vieil ami. L'avertissement que je dissimulais contre mon sein était écrit de sa main. René me le demanda, le parcourut rapidement et me le rendit avec un sourire résigné. Brûlez cela, Yana. La mise en garde vient un peu tard et conserver cet écrit vous mettrait en danger. Un spasme l'interrompit brusquement. Il gémit, les traits déformés par la douleur, et une humeur sanglante coula de la commissure de ses lèvres. Son valet, Heinrich, apparut comme par magie auprès de nous. Je compris que durant notre échange, il se tenait dans les ombres. La mine grave, la main douce, il baigna le front de son maître, essuya sa bouche, la tamponna avec une eau imbibée de vinaigre. Monsieur Descartes a été empoisonné. Nous en pressentons les causes, précisa-t-il, devançant ma question. Mais nous ignorons encore le nom de l'assassin. Il me résuma les événements des précédents jours. Les sueurs froides et les nausées, l'épuisement et les maux d'estomac, les douleurs aux côtés, les difficultés à s'exprimer. Durant les moments d'accalmie, son maître et lui s'attelèrent à comprendre ce qui, de toute évidence, n'était en rien comparable avec l'infection pulmonaire dont souffrit le légat Pierre Chanu, quoi qu'en dise le médecin dépêché par la reine Christine. Ils procédèrent par ordre, écartant méthodiquement ceux dont l'amitié et la vertu ne pouvaient les rendre suspects. Chanu lui-même et sa famille, Van Vullen, bien qu'il fût un charlatan, demeuraient les domestiques et l'aumônier de la maison. À cet instant, René reprit conscience. Il agrippa ma main. La sienne, d'habitude douce en dépit de sa fermeté, était devenue pareille à celle d'un paysan, sèche, rugueuse. Heinrich, murmura-t-il d'un ton soudain enroué, j'aurais préféré que vous ne me mêliez pas à ça. Yana, ma chère enfant, quel âge avez-vous à présent ? 16 ans cet hiver, c'est cela. Une année de plus que ma petite Francine, si elle avait vécu. Vous n'auriez pas dû fausser compagnie à Franz et sa famille, Yana. Vous auriez dû rester près d'eux à l'aide. À présent, voilà.
Eh bien, on est, voilà, la mort de Descartes, revue et corrigée. Mais c'est vraiment intéressant parce oui. que...
Et il a été traduit après, donc j'avais à peine fini la lecture, qu'il a été traduit et il est sorti dans le plus grand anonymat, ce bouquin. Et il est vraiment excellent, excellent, excellent.
Bien. Ben voilà, c'est bien de pouvoir lire les langues étrangères, ça sert pour faire des romans. Quand
oui,
on...
puis ça permet de frimer pendant les tables rondes.
C'est vrai, c'est bien. On parlait tout à l'heure d'un autre endroit, puisque là on est alors en Suède et puis on revient en France après, il y a toute une cavalcade, enfin j'en passe et d'autres, vous découvrirez le roman qui est, bon, moi, j'ai trouvé vraiment extrêmement agréable à lire et bien documenté. Alain Bauer, vous aussi, pour des raisons évidentes, vous êtes visiblement très bien documenté. Pourquoi vous avez choisi, vous auriez pu nous présenter des enquêtes policières qui se déroulent dans des loges françaises, alors est-ce que c'est un excès de délicatesse puisque vous en avez vous-même été responsable ou est-ce que vous êtes particulièrement intéressé par le Royaume-Uni ou tout simplement parce que la franc-maçonnerie serait née au Royaume-Uni ? C'est ça que vous nous dites ?
En fait, nous avons choisi un ordre logique et chronologique. Il y a 7 romans, il y aura 7 romans. Le premier a lieu à Londres car c'est le lieu de naissance de la maçonnerie. Donc 99% des personnages, des situations, des localisations viennent des archives maçonniques ou des archives historiques. C'est pour ça que nous travaillons à deux. Roger Daché est l'historien, moi je fais l'intrigue policière et criminelle, l'organisation des services de police de Londres, et je peux vous dire qu'en 1700, entre 1680 et 1780 ou 1815, jusqu'à l'enquête quasiment sur Jack l'Éventreur, les services de police de Londres sont d'une rare complication qui dépasse l'entendement, parce que ça soit en vieil anglais ou relire les documents historiques pour comprendre comment ça marchait, je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais alors, vu d'aujourd'hui, c'est un espèce de mystère absolu. Alors, il y en a une partie qui fonctionnait comme ci, d'autres qui étaient à mi-temps, certains qui étaient à temps plein, d'autres la nuit, sur des territoires qui n'étaient pas les mêmes, avec des bailliages et des systèmes juridictionnels qui ressemblent un peu à Capharnaüm, mais où tout sera en même temps, plutôt que séparé par des strates historiques à peu près identifiées. Donc tout est vrai. sauf un acteur qui est en général le criminel, le meurtrier, le méchant, le vilain. Dans Londres, par exemple, dans Channel Row, c'est Isaac Newton et son adjoint Jean-Théophile Desaguliers qui sont les détectives. Ils ont tous les deux existé et paradoxalement, tout le monde se rappelle d'Isaac Newton, la pomme, etc. Mais on ne se rappelle pas que c'était le maître des monnaies et qu'il a fait une activité très importante dans la lutte contre la fausse monnaie. Et donc, on avait inventé Newton détective sans vraiment s'intéresser à la réalité. La réalité a largement dépassé la fiction tout le temps. Chaque fois que nous avons essayé de trouver un élément de rebondissement, etc., la biographie de Newton, les éléments de la Royal Society, les archives historiques, les archives de la Grande Loge Unie d'Angleterre, nous donnaient des éléments qui auraient pu permis d'en faire trois volumes avec la réalité simplement. Le deuxième, qui est le Convent du Sang, se passe à Lyon, avec un très grand franc-maçon très ignoré, qui est Prosse de Royer, lieutenant général de police, le deuxième de France après celui de Paris. Et là, il part à une enquête parce que c'est le convent de création de ce qu'on appelle le rite régulier, de la maçonnerie christique, très symbolique. Et là aussi, tout est vrai, y compris on avait besoin d'un passage par Cagliostro. Parfait, dans les mémoires de Cagliostro, il passe à Lyon. Et alors, formidable, exactement à un mois près, dans la période que nous avions imaginée pour faire ça avec les édits royaux et toute l'histoire personnelle de Prosse de Royer. Il fallait que Prosse de Royer ait une vague connaissance avec la couronne, enfin Paris, Versailles, formidable. Il avait un ami d'enfance qui était ministre du roi, mais par la réalité. C'est-à-dire que la réalité a conforté notre imaginaire, c'est un des paradoxes de cela. Alors le troisième que nous finissons là, qui s'appellera probablement le meurtre du Capitole, c'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, grand franc-maçon, fondateur de la franc-maçonnerie américaine, ambassadeur à Paris, fondateur de la loge des Neuf Sœurs, la loge des savants, des intellectuels, qui ensuite repart aider. Et comme vous le savez, la grande photo, enfin la grande peinture qu'on voit partout en photo, c'est George Washington et quelques autres mettant la première pierre du Capitole, l'espace du pouvoir américain, uniquement avec des frères en tablier, puisque la première pierre a été offerte par la maçonnerie américaine. Et là aussi, le travail de décryptage des archives est absolument considérable, puisque à 99%, tout sera vrai, sauf un personnage que nous laissons dans l'ombre, mais qui n'est pas très difficile à identifier, et qui permet de retrouver la réalité. Et là aussi, nous avons trouvé des tas d'ouvrages inconnus, méconnus, jamais traduits, mais qui sont des ouvrages scientifiques, historiques, et qui nous montrent une autre vision de ces personnages réels, dont chacun, en fait, est un petit détective qui sommeille caché derrière une visibilité très honnête, très scientifique, très administratif, très diplomatique. Alors, Prosse de Royer est un flic, au moins on est dans ce cadre-là, mais au départ, c'est un spécialiste plutôt de l'assistance publique et de l'aide aux démunis. C'est lui qui crée les premiers hôpitaux, c'est lui qui crée la première poste, etc. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de personnages dans chaque personnage et que la fiction, en fait, c'est juste une petite amélioration de la réalité.
Vous voyez, avec ce qu'avaient dit successivement Charlotte Bousquet et Alain Bauer, on découvre, pour ceux, nous on n'a pas besoin d'être convaincus ici, mais que le roman policier, en particulier le roman policier historique, que parfois, c'est terminé, mais que certains de nos intellectuels parisiens ont parfois déconsidéré, il y a encore quelques dizaines d'années, il n'y a pas si longtemps, que finalement, il nous apporte une vraie érudition, une vraie passion de l'histoire, et après, ça nous donne envie de nous plonger, y compris dans des ouvrages historiques, et de redécouvrir tout ça. Je trouve ça qui est passionnant dans vos ouvrages, pourtant très différents, sur des personnages différents, votre enquêteur étant bien évidemment un prétexte, et puis aussi le plaisir de suivre une enquête, on sait bien qu'on aime toujours ça. Votre détective à vous, alors c'est pas tout à fait pareil, c'est un lettré, un mandarin. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre détective privé et le rôle qu'il peut jouer dans vos romans?
Oui, en fait, tout a commencé par ma sœur, en fait, parce que c'est elle qui a eu l'idée d'écrire des romans policiers dans le XVIIe siècle. Et quand elle m'a proposé cette idée, je n'étais pas très chaude parce que j'étais complètement ailleurs. J'étais ingénieure et elle était physicienne, donc ça a tombé un peu bizarrement. Mais elle a dit, on va mettre en scène un mandarin. Et là, ça a fait le tilt parce que, en fait, elle faisait référence à un personnage familial, un aïeul du côté de ma mère, qui avait très bien réussi au concours mandarino, c'est-à-dire des concours nationaux, à un âge très jeune. Et vous comprenez que pendant notre enfance, on a entendu beaucoup parler de cet aïeul, parce que mes parents avaient utilisé copieusement son existence pour nous pousser à bien travailler. Donc, à l'âge adulte, quand elle m'avait avancé cette idée, on s'est dit, bon ben voilà une façon de le remercier enfin. On va lui lancer des coupe-jarrets à ses trousses. Il va tomber dans des guet-apens, il va se faire empoisonner, il va tomber amoureux de femmes inaccessibles. Donc voilà le personnage de base. Mais bon, il fallait quand même qu'il soit un minimum sexy. Donc on l'a fait jeune, musculeux, athlétique, beau, intelligent. Et puis on lui a donné le nom de Tan, qui est le prénom de mon père. Et là, surprise, mon père s'est tout de suite reconnu dans le personnage. Donc voilà l'origine de ce mandarin qui est d'une famille paysanne et qui doit monter dans les grades et devenir officier de l'Empire sous les ordres de l'empereur dans une époque très perturbée parce que l'empereur est corrompu et il y a une dissension politique qui se prépare.
Ben voilà, oui, on est vraiment dans des univers extrêmement différents, mais tous passionnants. Et alors, vous êtes un peu le petit canard de la couvée, c'est-à-dire que quelque part, vous n'êtes pas tout à fait Pierre Pevel avec des détectives privés. Vous, c'est plutôt, comme vous le disiez au début, des barbouzes, des hommes d'action, des hommes qui sont quelque part à la fois des hommes mauvais, comme disait un écrivain américain de romans noirs célèbres, mais aussi quelque part des hommes qui aiment leur pays. C'est toute la contradiction de vos personnages. C'est qu'à la fois, ils ont des méthodes plus que discutables, à la fois, ils ne sont pas tout à fait reconnus officiellement comme étant des services de l'État, et pourtant, avec le risque d'ailleurs d'être marginalisés et effacés lorsqu'ils pourraient présenter un danger pour les gens les plus importants de la société de l'époque, sous le cardinal. Néanmoins, ce sont quand même des hommes qui ont des valeurs. C'est toute la contradiction de vos histoires et de vos personnages dans les lames.
Oui, petite parenthèse historique personnelle. Moi, je suis fils de militaire et frère de militaire. Donc, la notion de devoir, de savoir ce que c'est que d'aller au feu et pour quelles raisons on le fait, des questionnements qui traversent un peu ma famille. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter non seulement avec les gens de ma famille, mais également avec des frères d'armes, ça s'appelle comme ça. Donc cette notion-là m'a toujours intéressé, surtout que je me suis rendu compte que, paradoxalement, c'est un faux paradoxe, c'est un paradoxe apparent, mais des gens qui avaient pu vraiment, qui s'étaient battus, étaient allés au feu, avaient connu des théâtres d'opérations sanglants, terribles, me concernant, c'était l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire, étaient à côté de ça des gens parfaitement normaux qui, lorsqu'ils étaient dans notre contexte social finalement très protégé, étaient des gens charmants qui n'ont pas des monstres là-bas et des gens normaux ici, mais finalement, c'était les mêmes dans les deux cas. Puis moi, je trouvais ça très 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 troublant, quoi, à cause du cinéma ou du roman ou des cinémas d'action. On a l'impression que ce sont des êtres exceptionnels, et en fait non, ils ont des qualités exceptionnelles pour certains, mais sinon, tout d'un coup, ils font ce qu'ils font parce que certains c'est par sens du devoir, certains c'est par tradition militaire parce qu'ils sont militaires de père en fils. Ces gens-là m'intéressent et continuent à m'intéresser beaucoup. Je voulais aussi, comme la période historique s'y prêtait, et là je rejoins ce que disait en substance Charlotte ou Alain Bauer, c'est que l'histoire a un talent fou. C'est-à-dire qu'on se trouve par moment, on commence à creuser un sillon, à soulever une pierre, et puis en dessous on trouve des tas de pépites, à tel point que par moment, moi je sais que quand je m'interrogeais à cette période historique, puis à un événement historique particulier, un complot qui avait lieu au Louvre, je commençais à m'intéresser, et puis à m'y intéresser, à me documenter, et je trouvais de plus en plus de choses qui allaient dans mon sens. À tel point que je me demandais, non, c'est pas possible, t'es biaisé, tu vois que ce que tu veux voir, quoi. T'es une sorte de croyant de ta cause, et donc il y a que ce qui sert ta cause que tu remarques. Et donc j'essayais d'être le plus détaché possible, mais non, vraiment, l'histoire allait au moins dans mon sens, ou en tout cas, poser tant de questions que ça devenait fascinant de vouloir y répondre. Et ça va aussi bien pour, lorsqu'on s'intéresse aux romans historiques, on essaye d'écrire un roman historique, ça va aussi bien pour la grande histoire, les grands événements, la vérité des hommes et des événements, mais par moments pour un détail. Dans un de mes bouquins, à un moment, une scène assez importante du roman se déroule dans le domaine de la duchesse de Chevreuse, qui était grande intrigante et grande amoureuse, comme on dit pudiquement, devant l'Éternel. On dit que son mari a fait une des plus belles carrières de cocu de l'histoire, et c'est vraiment pas faux. Mais donc, elle était évidemment un personnage pour moi, dès qu'on fait une histoire d'espionnage au début du XVIIe siècle, on peut pas faire l'impasse sur la duchesse de Chevreuse. Ce serait un crime, ce serait une faute, quoi. C'est amoral de pas parler de la duchesse de Chevreuse à ce moment-là. Et puis, je regarde, donc, je me documente sur son domaine. Alors, donc, je vais chercher des archives parce que, même si j'y mets des dragons, moi je voulais, dans ma tête, il fallait que ce soit vraiment le château de la duchesse de Chevreuse et vraiment son parc tel qu'il était que je décrive. Comme il a disparu, il fallait aller sur des documents d'époque. Et puis je vois donc son domaine s'appelle le domaine de Dampierre. Et dans ce domaine, moi je voulais imaginer qu'il y avait des cavernes, des souterrains avec des trucs pas très nets dessous et voir un peu de malédiction si possible. Et donc je vois le domaine de Dampierre et puis je lis au détour d'une phrase que l'étymologie, on se dispute sur l'étymologie de Dampierre, mais qu'une des étymologies possibles, c'est que le Dan, D-A-M, c'est le même que Dané, Damnae, c'est les pierres maudites. Bon, je dis, bon, là, qu'est-ce que j'ai à faire, quoi? C'est évidemment, bon, c'est l'option que j'ai choisie, hein, je ne vous le cache pas. Mais on trouve comme ça des tas de petites perles dans l'histoire quand on s'intéresse à ça. Et c'est vraiment. Et en plus, alors là, moi, je prends un plaisir particulier que j'imagine que doit être le plaisir du collectionneur qui tombe sur un objet rare en braderie. Il y a un plaisir de ramasser des petits trucs comme ça, de dire « Ah oui, mais ça, je l'ignorais et c'est génial, il faut absolument que je le mette dans le bouquin ». Ça, c'est un plaisir fabuleux de romancier historique.
Charlotte, vous voyez opiner, peut-être rebondir sur ce que vient de dire Pierre Pevel. Est-ce que vous vivez les choses comme ça quand vous écrivez un roman policier historique?
Oui, et en plus, ce qui m'amuse beaucoup, Pierre, c'est que j'ai aussi une méchante duchesse de Chevreuse, bizarrement, peut-être plus jeune, non, un peu plus âgée que vous, puisque moi, c'est en 1650. Mais ce qui est absolument génial, effectivement, quand on fait des recherches pour un roman historique, c'est ça, c'est de voir que notre fiction ou nos intentions rejoignent très souvent la réalité, de découvrir des petites choses. Bon, moi, c'était surtout à propos de Mazarin, de tout ce qu'il pouvait y avoir comme pamphlet, et puis le fait qu'on lui reprochait quand même essentiellement d'être italien, ce qui est quand même assez... Donc déjà, des complots naissants de racisme, de trucs qu'on ne digérait pas. Et c'est vrai que ça a été moi ça a pas mal ça nourrit pas mal Vénénum. Et à propos de Descartes, ce qui a été absolument génial, donc j'ai fait mes études de philo en partie sur Descartes. Et en fait, il y a une biographie qui est sortie au moment de sa mort, une biographie officielle par Bayet. Et Bayet avait réécrit Descartes à sa manière. C'est-à-dire que si vous cherchez le vrai Descartes, c'est pas dans Bayet, c'est dans la correspondance de Descartes qu'il faut le trouver, où vous avez quelqu'un qui est vivant, qui est quelqu'un qui aime, qui s'engueule beaucoup. Descartes avait quand même la fâcheuse tendance à insulter les gens, mais d'une manière... Mais on n'accepterait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ferait, des scandales sur Facebook, tellement... Ouais, quand il insulte quelqu'un en disant qu'il est complètement incompétent, plagiaire, et qu'en gros, recevoir d'un de ses bouquins, s'il préférait avoir un truc sur les vers de terre. Enfin, c'est quand même un peu... Voilà. Et en fait, il y avait un truc qui m'avait beaucoup marqué, c'est que donc Descartes a une fille naturelle avec une servante qui s'appelait Hélène Hans, donc une fille qui s'appelait Francine, et Descartes adorait sa fille. Et malheureusement, Francine est morte à l'âge de 5 ans d'un truc au poumon, et Descartes, donc, triste, pleure, normal. Et puis quelques années après, il écrit à un de ses correspondants, mais écoutez, en gros, faut pas culpabiliser parce que vous versez des larmes. En fait, c'est très humain. Moi, ça m'est déjà arrivé, voilà. Et en fait, Bailly et d'autres biographes ont dit que c'était probablement parce qu'il avait perdu son père, puisque évidemment, Descartes ne peut pas avoir eu de sentiments humains, ne peut pas avoir aimé sa fille, ne peut d'ailleurs pas avoir aimé. Et en fait, ce qui est très, très rigolo, c'est de voir la transformation, déjà à cette époque, d'un personnage qui était très vivant, qui était parfois, souvent, de très, très mauvaise foi, qui a fréquenté des libertins, quand même, en une espèce de figure complètement austère qu'après, on a étudié en terminale. Et ça, c'était mon grand plaisir de refaire surgir, j'ai l'impression, en tout cas, un Descartes qui est plus proche de ce qu'il a été réellement.
Pierre ?
Oui, je voulais dire, je pense à ça en t'écoutant, Charlotte, c'est que, et c'est valable pour tout le roman historique, pas seulement le roman historique policier, mais c'est qu'on a l'avantage de pouvoir montrer des personnages historiques, mais on les montre vivants. Ce qui n'est pas le fait de l'ouvrage historique en général, qui va être factuel, descriptif, rigoureux, et souhaitons-le. Mais nous, on les montre vivants. On les montre bougeants dans leur quotidien. Et parfois même, c'est presque surprenant parce qu'on a des visions qui nous viennent du collège, du lycée, voire de la petite école avec des personnages figés. Ils sont souvent figés dans un certain âge. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, La Fontaine, il n'a jamais été jeune. Ça n'a jamais été un jeune gars qui avait envie de vivre, de sortir, de voir des filles, etc. Victor Hugo, c'est pareil. Bon, Victor Hugo, vous imaginez pourtant le bonhomme, mais quand on sait. Mais bon, on voit toujours ce type à barbe blanche, tout ça. Et nous, on peut les montrer autrement. On peut les montrer vraiment dans leur vie et finalement dans une certaine vérité également. C'est une sorte de... Là, il y a un paradoxe presque, c'est que le romancier historique, pourvu qu'il soit bien documenté, ça, c'est quand même capital, parce que le pastiche n'a d'intérêt ou le roman historique décalé n'a d'intérêt que quand la partie historique est la plus véritable possible. Mais nous, on a cette capacité de, en inventant, en fait, on ajoute de la vérité, on ajoute du vrai, de la chair, du corps, de la viande sur l'os de ces personnages qui ont vécu et qui ont été, comme nous, oui, et qui, comme tu le dis, ont été malheureux, heureux, parfois mesquins, jaloux. Enfin bon, c'était
humain,
des vrais gens.
En fait, humain.
Oui, des vrais gens.
Alors, j'ai à peu près la même situation avec Isaac Newton. Isaac Newton, bon, la pomme, la physique, individu austère, etc. Et puis quand on gratte un peu la vraie vie de Newton, on découvre d'abord que le pauvre Newton est né un 24 décembre et qu'il avait fait un tropisme qui était que l'anagramme de son nom en latin voulait dire qu'en fait il était le deuxième Messie et l'autre fils de Dieu. Donc évidemment, ça n'aide pas dans la vie. Deuxièmement, qu'il était certes le premier des physiciens, mais aussi le dernier des magiciens. Il faisait de l'alchimie dans son labo. Il est mort empoisonné, mais par lui-même, au mercure, ce qui est assez désagréable. Il avait un caractère de cochon. Il avait une vie sexuelle que je qualifierais de métrosexuelle moderne, ce qui pour l'époque était un peu compliqué. Et enfin, il ne croyait pas à la sainte... Trinité, il était arianiste, il était disciple d'Arius, qui à l'époque était un peu désagréable, parce que bien évidemment c'était assez mal vu et des anglicans et des catholiques.
Et pourtant Arius c'est génial.
Et pourtant Arius c'est important pour ceux qui regardent un peu l'histoire des conciles, petit ouvrage remarquable qui permet de se resituer d'une manière un peu plus neutre dans les débats de l'époque, y compris sur l'origine réelle du mariage par exemple, qui n'est qu'un acte civil, né du matrimonium romain et qui n'avait qu'une seule activité essentielle, non pas reconnaître le lien entre un homme et une femme, mais permettre au fils ou à l'enfant né de cette relation d'avoir une possibilité d'avoir accès à l'héritage. Parce que l'histoire, c'est aussi ça. Ça permet de sortir de la mythologie moderne et pas seulement de la mythologie ancienne. Nous avons nos dragons à nous qui apparaissent régulièrement, d'ailleurs, dès qu'on a un débat social un peu curieux. On a des ressorties figées de fausses histoires. Et alors j'ai un souvenir là, enfin, j'ai deux souvenirs sur ces questions. Un personnel, quand je suis devenu grand maître du Grand Orient, j'ai posé la question terriblement douloureuse de la reconnaissance des sœurs. Alors, pas des femmes pour les initiés, mais des sœurs qui étaient déjà initiées de l'évidence féminine, car elles étaient accueillies au Grand Orient depuis 1921, mais on ne les initiait pas. Et on n'arrivait pas à en parler. C'est-à-dire que dès que vous vouliez parler de ce sujet à l'Assemblée générale du Grand Orient, il y avait une motion qui disait « on n'en parlera pas cette fois-ci », ce qui évitait d'en parler. Alors un jour, on est arrivé à en parler, et alors je recevais des responsables archaïques, d'une vision archaïque de la maison, jusqu'au jour où j'ai trouvé dans les archives du musée une grande peinture où on voyait une loge mixte du Grand Orient, co-dirigée par un homme et une femme, avec des sœurs et des frères ensemble. Ce qui était important, ce n'était pas qu'ils soient ensemble, c'est que la loge soit co-dirigée. Il y avait un vénérable maître et une vénérable maîtresse. Et donc, j'ai mis ce tableau dans l'entrée de mon bureau pour être sûr que tous ceux qui m'attendaient, que je faisais attendre exprès d'ailleurs, avaient ce truc-là sous le nez pendant 20 bonnes minutes pour qu'ils aient un vague sentiment de réflexion avant de m'expliquer que les temples étaient interdits aux femmes et aux animaux, ce qui était à peu près leur position. Alors évidemment, ça a un peu progressé, mais très lentement. Sauf que je suis allé chercher des archives historiques expliquant que ça marchait très bien comme ça au XVIIIe siècle et que nous avions simplement tout oublié. Dans la partie moderne, un jour, j'ai fait un test avec un de mes éditeurs, que je ne citerai pas. J'ai repris un dossier judiciaire, un vrai dossier judiciaire, un des premiers qui ont été informatisés, et j'ai juste fait un peu de zapping pour faire croire que c'était un manuscrit, enfin, un synopsis. Et tout était vrai, et l'éditeur me dit, on ne peut pas publier ce truc-là. Quelle invention, quelle créativité. Rien n'est crédible, Alain. Tu ne peux pas publier ce truc-là. Et alors, après qu'il m'a expliqué comment il fallait réécrire le truc pour rendre la chose crédible, éliminer tout ce qui était... Alors, il y avait effectivement à peu près tout et n'importe quoi. Des gens qui suicidaient en se tirant une balle dans la tête et en mettant de la musique très fort, pour être sûr de ne pas se louper. Je lui ai révélé ce que c'était un vrai dossier judiciaire, parfaitement factuel, que rien n'avait été inventé et que, de ce point de vue-là, la réalité, une nouvelle fois, non seulement avait largement dépassé la fiction, mais rendait la fiction très pauvre par rapport à ce qu'on est autorisé à imaginer quand on crée des personnages. Et en fait, quand on fait des romans historiques, on a cette chance de pouvoir amener des preuves. Vous voulez parler de Newton, ben, la malle de Newton, qui a permis de découvrir tout ce qu'il y avait dans ces documents historiques rachetés aux enchères et que personne n'avait ouvert, a permis de redécouvrir le côté alchimique de Newton. Et les responsables des sciences dures sont horrifiés de découvrir la face sombre de Newton, qui est aussi une face relativement sympa, rigolote, éclairée. Newton, il vous invitait à dîner, et il oubliait qu'il vous avait invité à dîner. Donc vous attendiez 3 heures, puis tout d'un coup, il sortait de son labo en disant « Ah, vous êtes là ?» Voilà. Il avait des collaborateurs qui traitaient comme des chiens, d'autres qui traitaient comme des enfants. Il avait une relation extrêmement vivante. Et toute la réalité est à disposition. Le roman historique permet de la recaler, et il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de chance avec les biographes officiels. Parce que le biographe officiel est très souvent un menteur. Il élimine une partie de la réalité, on se demande pourquoi, et surtout il la réécrit. Alors, ce qui manque, on peut considérer que c'est en fonction des besoins de l'époque, car beaucoup de biographes sont des années 50 ou à la fin du 19e, il fallait donner une vision positive de la science. Bref, ce sont des politiciens plus que des savants. Ils sont engagés, militants, et ils refont l'histoire, ils la réécrivent. Mais quand ils oublient des choses, c'est moins grave que quand ils les réinventent. Parce que quand ils les réinventent, on est totalement perdu. Et de ce point de vue-là, le roman historique est vraiment plus crédible, très souvent, parce qu'on est obligé de se justifier souvent de ce qu'on écrit pour dire « mais si, si, c'est vrai », que la biographie auquel on ne demande aucune justification et qui, pour souvent, est une mystification.
Je trouve que c'est une belle défense et illustration qui nous permet, je crois, de clore ce café littéraire. Alors maintenant, profitez de la passion de l'aventure et de la documentation avec nos 4 auteurs que vous pourrez trouver dans 2 minutes sous la bulle du livre. Charlotte Bousquet, Vénénum et d'autres romans historiques. Là, on part évidemment à l'époque de Descartes. Alain Bauer, ses romans policiers qui se déroulent en Angleterre et puis en France et qu'on va continuer à suivre. Hein. Voilà, donc on va suivre là où se construit la maçonnerie. On est au XVIIIe siècle. On part au XVIIe au Vietnam avec Tan Van Tran Nhut. Et puis, Pierre Pevel, on est avec le cardinal de Richelieu et les hommes qui gèrent ses basses œuvres avec Dragon.
Et
bien évidemment. Merci à vous quatre et en tout cas, bienvenue au festival. Merci.